Salut, c'est Laura Nathalie, bienvenue sur le podcast des Explorateurs de Liberté, où je vais à la rencontre d'entrepreneurs, de coachs, d'artistes, de toutes personnes qui ont créé de super projets et surtout une vie dans laquelle ils se sentent libres. Aujourd'hui, je suis avec José du cabinet Vital Harmony, qui est thérapeute holistique. Bonjour José.
Bonjour.
Je commence par une question que j'aime bien poser parce que j'ai remarqué qu'il y a souvent un rapport, mais des fois pas du tout, entre ce que faisaient tes parents, leur métier, leur passion et en quoi ça t'a influencé dans tes choix de vie.
Alors, mes parents étaient des ouvriers, mais j'ai vécu avec ma mère puisque mes parents étaient divorcés, mais je me suis rendu compte par la suite que ma mère avait une faculté pour rebondir sur tous les éléments négatifs de sa vie, ce qu'elle m'a enseigné. Elle a toujours regardé le côté positif des choses, et malgré qu'elle a une vie très, très compliquée, assez pénible, et elle a toujours réussi à trouver le côté positif des choses et à sortir la tête de l'eau. Et ça, elle me l'a enseigné, mais je ne m'en suis pas aperçue tout de suite parce que pour moi, c'était totalement naturel.
Ouais.
On devait vivre comme ça.
Oui.
Donc, je vivais comme ça.
Ouais.
Mais je m'en suis rendu compte après, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Voilà.
Donc, tu as été vraiment reconnaissante de ça.
Ah ben oui, ça m'a beaucoup aidée.
Ouais.
Ça m'a beaucoup aidée parce que ce qu'on apprend dans le développement personnel, ben, je l'ai fait depuis toute petite.
Naturellement,
ouais. Pour ça, j'ai eu de la chance.
Et qu'est-ce que tu as fait comme études, formation? Et est-ce que ça a été un choix facile?
J'ai fait des études d'assistante en pharmacie. Choix facile, oui, relativement facile. J'ai fait 3 jours de stage en pharmacie et ça m'a tout de suite plu. Ce qui me plaisait le plus, c'était aussi le côté préparation. Donc, faire des petits mélanges, préparer des pommades, des choses comme ça.
Ah ouais, un peu sorcier.
Voilà. C'était un petit peu comme le jeu du petit chimiste qu'on peut acheter dans les magasins. Donc ça, c'était bien. Ça se faisait encore à l'époque. Maintenant, ça se fait quasiment plus. Donc ça me plaisait beaucoup. Et donc ça a été un choix facile, donc j'ai tout de suite décidé de faire cet apprentissage. Par contre, ce qui me plaisait moins par la suite, c'était les horaires. Parce que travailler le soir, on travaillait jusqu'à 19h à l'époque.
Ah ouais,
on travaillait aussi le samedi. Donc c'est vrai que c'était un peu pénible.
Ouais.
Surtout quand on est ado et qu'on a surtout vite envie de sortir pour aller s'amuser avec les copains-copines.
Ouais.
Donc, j'ai fait une année de pharmacie après mon apprentissage. J'ai vite arrêté pour faire d'autres choses, toujours dans le médical, paramédical. Mais je suis revenue à mes premières amours dans les années... fin des années 80, début 90, début 90, pour reprendre la pharmacie. Et là, j'étais de nouveau enchantée. Donc, c'était effectivement un métier qui me plaisait et qui me plaît toujours.
Et aujourd'hui, tu es principalement thérapeute holistique, comme tu me disais. Enfin, comment tu décrirais en fait ton activité à des personnes pas du tout familières avec la thérapie, tes compétences?
Alors, décrire ce que je fais, c'est un peu difficile parce que c'est énormément vaste. Par contre, je dirais que quelqu'un qui a une difficulté, quelqu'un qui a un blocage quelconque pour avancer dans sa vie, avec mon aide, on peut trouver une solution. Donc, que ce soit une solution juste de coaching, puisque je fais aussi un peu de coaching, ou que ce soit une solution de guérison holistique, donc en travaillant sur les mémoires et les blocages qui peuvent la gêner pour avancer.
Donc en fait, en fonction de la personne, tu vas adapter...
Alors oui, j'adapte toujours ce que je vais faire. C'est d'abord, donc quand la personne vient me voir, J'ai une discussion avec elle et selon cette discussion, je vais me diriger soit vers telle ou telle méthode ou vers du coaching. Ou... Voilà, ça dépendra de ce qu'elle va me raconter.
Ok. Donc, comment se passe une séance ? La première séance, ils arrivent ?
Alors, une séance, bah, c'est ça. Donc, une discussion. Alors, ça peut aller d'une demi-heure à une heure selon les personnes. Ça dépend. Il y a des gens qui ne parle que très peu au début et au fur et à mesure, tout d'un coup, ah mais oui, ah mais il y a ça. Mmh. Et ils se rappellent de plein de choses.
Ils ont été mis un peu à l'aise.
Souvent, oui, il y a le fait d'être à l'aise, mais en même temps, il y a le fait de la discussion en elle-même. Mmh. Ils viennent peut-être pour un problème au niveau de leur travail et en discutant, ils partent sur des problèmes familiaux, des problèmes avec les enfants, des choses comme ça, mais qui les font réagir de telle manière que ça leur crée des problèmes au travail.
D'accord, donc tout est très lié.
Tout est très lié, et c'est justement pendant la discussion que tout d'un coup, ça va aller, on va trouver les ramifications au moment de la discussion.
Et donc, tu ne sais pas combien de séances ça va durer souvent, ça va vraiment être...
Alors, c'est très variable. Il y a des gens qui ont un déclic la première séance. Et ça arrive que certaines personnes ne reviennent pas parce que tout est réglé en une séance. Ça dépend comment elles sont prêtes, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à lâcher, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à changer, à transformer, même inconsciemment. Hein, donc, parce que consciemment, elles ne sont peut-être pas prêtes à faire grand-chose, mais inconsciemment... Il y a d'autres paramètres derrière. Donc, quand elles sont prêtes, une séance peut suffire. Parfois trois, rarement plus que cinq.
D'accord, ok.
Je crois que j'ai encore jamais eu personne qui a fait cinq séances.
C'est bon, en fait. Vraiment dire que c'est très difficile.
Alors, c'est soit elles ont conscience de ce qui est possible, et donc elles sautent dedans. Et soit elles n'en ont pas conscience, ça se fait petit à petit, seule. Soit elles refusent, elles se bloquent, c'est arrivé aussi. Et elles ne sont pas prêtes du tout. Et là, de toute façon, ça ne sert à rien de revenir. Parce que ça, même avec 50 séances, rien ne changera.
Ça doit vraiment venir.
Voilà. Ça doit venir de l'intérieur de la personne. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose. C'est leur être intérieur qui va transformer ce qu'il y a à transformer.
Et pourquoi as-tu décidé de te lancer à ton compte ? Comment ça s'est passé ? Et quels obstacles as-tu rencontré ?
Alors, pourquoi j'ai décidé de me lancer à mon compte ? C'était plutôt pour avoir plus de liberté pour la famille.
Passer plus de temps avec tes
enfants. Voilà, passer plus de temps. Être disponible au moment où mes enfants avaient besoin de moi. Aussi parce que j'étais plus après une bonne quinzaine, 15-16 ans d'arrêt de travail, j'étais plus trop dans la course, je dirais. J'avais plein de choses qu'il aurait fallu remettre à niveau.
Pour pouvoir travailler. Des enfants, voilà. En fait.
Ouais. Oui, voilà, j'ai arrêté de travailler pour mes enfants, j'ai repris. Quelques temps, mais j'ai vite réarrêté, donc il y avait beaucoup de choses qu'il aurait fallu remettre à niveau, et du coup, ben voilà, c'était faisable, mais j'étais pas assez disponible puisque je voulais quand même garder du temps pour la famille, donc du coup, c'était éventuellement pour plus tard. Et puis, quand j'étais enceinte de ma dernière fille, je suis tombée sur des articles de méthodes diverses qui étaient reliées plus ou moins à l'accouchement. Et je me suis un petit peu documentée. Certaines méthodes étaient, oui, proposées au niveau de l'accouchement, mais qui n'avaient rien à faire avec. Et donc, en me documentant, je me suis intéressée d'abord à la kinésiologie en particulier. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, je vais essayer de creuser. Parce que je suis assez curieuse et quand quelque chose m'intéresse, j'essaye d'aller plus loin et d'en apprendre plus sur la chose, même si je ne vais pas faire des formations ou autre.
J'aime bien, voilà.
J'aime bien décortiquer la chose qui m'intéresse pour savoir ce que c'est.
Par simple curiosité,
voilà. Et donc cette kinésiologie, donc ça m'a interpellée. Et bien entendu, ma dernière fille est née. Les horaires de formation, tout ça, ça ne me convenait pas. Donc j'ai attendu, toujours en me documentant sur d'autres choses, plein d'autres petits trucs à côté. Et quand on voit quelque chose, on est toujours envoyé sur d'autres choses, etc. Donc ça prend une énorme ampleur.
Oui, surtout de nos jours avec Internet.
Voilà.
Ça va vite.
Et donc, je pense que oui, quand ma fille, la dernière, a eu 10 ans, là j'étais un peu plus prête. Je pouvais laisser mon mari s'occuper des enfants le week-end, même s'il avait travaillé toute la semaine, ce que je ne m'autorisais pas à faire avant. Et donc, j'ai pu me former en kinésiologie.
Et en quelques mots, la kinésiologie pour quelqu'un qui...
Alors, la kinésiologie, c'est une méthode où tu peux... tu vas, avec le test musculaire, tu vas poser des questions au corps et le corps te répond par le test musculaire. Donc, tu appuies légèrement sur le bras de la personne et les questions que tu auras posées, c'est le corps qui te répond. La personne, elle est pas, c'est pas elle qui va diriger cette réponse par son bras, c'est son corps qui répond. Et par ça, tu peux aller traiter énormément de choses.
D'accord, ok.
Voilà.
Et donc, tu as commencé avec la kinésiologie ?
Alors, j'ai commencé avec la kinésiologie. Et c'était pour moi un petit peu, je dirais, c'est intéressant, mais il me manquait quelque chose. J'avais l'impression que c'était très terre à terre. Et il me manquait quelque chose de plus éthéré. Et après, j'ai eu d'autres méthodes qui sont arrivées, entre autres l'EFT, Emotional Freedom Technique.
Ok.
Voilà.
Qui est,
alors là, c'est des tapotements sur le visage et sur une partie du corps, enfin le haut du corps, les mains.
D'accord.
Justement, et c'est une technique qui est utilisée en Amérique surtout pour les militaires qui reviennent de la guerre.
Ah.
Enfin, en l'occurrence, ça a été fait au moment où les militaires revenaient du Vietnam.
D'accord.
Ils étaient traumatisés,
ouais.
Ils étaient bourrés de médicaments et les médicaments ne faisaient plus rien.
Mmh.
Et du coup, certains ont eu l'opportunité d'essayer l'EFT et se sont guéris comme ça. Donc, c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur. Donc, c'est effectivement une très très bonne méthode pour tout ce qui est traumatisme, que ce soit des petites choses, des phobies, des choses comme ça, ou voire des viols aussi. Donc, c'est une très bonne méthode et facile.
Donc, des tapotements en fait.
Des tapotements sur. Alors, c'est des points de méridien.
D'accord.
Et c'est des tapotements sur le visage, donc le front, le coin de l'œil, sous l'œil. Et ça correspond toujours à un méridien. Et donc, on peut traiter pratiquement tout. Hein. Pratiquement tout.
Ah, je ne connais pas, je vais...
je te ferai une
séance. Ça m'intéresse, du coup. Donc, en fait, là, tu avais kinésiologie, EFT, c'est ça ?
EFT, oui.
EFT. Et donc, à ce moment-là, tu as déjà commencé à avoir des clients ?
Alors, non, pas encore. Non. J'y pensais, mais sans savoir trop comment faire. J'avais pas de cabinet, j'avais rien. Donc recevoir les gens chez moi, alors oui, je recevais les copines pour m'exercer.
Ouais.
Mais recevoir les gens chez moi ne me convenait pas. Et donc je ne savais pas comment faire. Et petit à petit, l'idée a germé de me faire un petit coin quand même... Donc, ma terrasse a été fermée et donc j'ai pu recevoir les gens sur ma terrasse, sur mon ancienne terrasse, tout en n'étant pas à l'extérieur.
Ah, puisque, ouais.
Tu vois, là, on le voit ici, hein, y a les vitres.
Ouais.
C'était la terrasse avant et comme c'était pas utilisé, c'était fermé mais pas utilisé, donc j'en ai profité et j'ai arrangé ça comme ça.
Et donc, au début, tu faisais ça pour t'entraîner, mais peu à peu, tu as transformé t'as transformé ça en activité? Ou comment alors, la transition s'est faite, en fait? C'est toujours un peu...
comment facile. La transition s'est faite? J'ai décidé un jour que je... que j'étais... j'étais je pouvais transmettre mes formations aux autres. Et que là, je pouvais déjà commencer par me faire une carte de visite pour, pour me faire connaître.
C'est quoi qui a fait le déclic? Parce que souvent, pour beaucoup de gens, c'est pas facile de passer ce cap, de se dire « Ok, maintenant, je sais que j'ai les moyens d'aider quelqu'un et que je peux en faire un business. »
Alors, le déclic, ça a été le lieu où je pouvais recevoir les gens.
D'accord.
J'avais un lieu où on était tranquille, où on était seul, enfin, où j'étais seule avec le client et au calme. Et ça, ça a été le déclic, parce que juste avant, je ne savais vraiment pas, comme je t'ai dit, chez moi, c'était, je ne voulais pas. Ailleurs, louer un cabinet, alors c'est arrivé où j'ai loué un cabinet pour 2 heures, où je faisais venir la personne, je n'étais pas à l'aise non plus, parce que tu arrives avant, tu mets tes affaires en ordre, ouais. etc. Enfin bref, c'était pas à l'aise. Donc, je préférais quelque chose où j'avais mes affaires, où c'était organisé comme moi j'avais envie et où j'avais rien besoin de préparer une demi-heure, une heure à l'avance. Donc là, c'était les gens venaient, c'était, tout était prêt, tout était bien pour les recevoir.
Et comment tu as trouvé alors ces premiers clients?
Alors, j'en sais rien.
Ils sont venus.
Je ne sais pas. Alors, la toute première cliente que j'ai eue, c'est une amie thérapeute qui me l'a envoyée parce qu'elle l'avait contactée et elle était en vacances. Donc ça, oui, je sais. Mais après, je ne sais pas. Les gens me disent qu'ils me trouvent sur Internet. Alors, je ne sais pas si c'est sur des annuaires thérapeutiques, si c'est sur Facebook. Je ne sais pas.
Donc, tu t'es déjà mis à ce moment-là sur Internet?
Alors, j'avais ouvert ma page Facebook. Okay. Et je m'étais inscrite dans des annuaires thérapeutiques.
Ok.
À différents endroits. Mais je ne sais pas, les gens me trouvent sur Internet, mais je ne sais, enfin, j'ai jamais...
T'as jamais été très proactive.
Voilà, j'ai jamais cherché vraiment à savoir. Je me dis simplement, alors là, je fais un peu marcher la loi d'attraction, je me dis simplement que si je dois avoir des clients, j'aurai des clients. Et
ça fonctionne.
Et ça fonctionne. À chaque fois, je me dis, il faudrait quand même que j'ai quelques clients, parce que c'est vrai que ça devient pour moi un besoin de transmettre cette énergie.
Ouais.
Quand je la transmets pas, je suis en manque. Je ouais. manque de quelque chose. Et quand j'ai pas de clients, si je m'arrête de travailler pendant un mois comme ça, je suis en manque. J'ai besoin de transmettre. Donc des fois, c'est mes filles qui en profitent. Là, je me dis, en général, le matin, je me dis... j'aimerais bien avoir quelques clients pour pouvoir travailler. Et là, le jour même, les rendez-vous, les gens téléphonent pour prendre rendez-vous.
Ah. Voilà. C'est très inspirant ce que tu dis. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as ce besoin, en fait. C'est ça qui te pousse.
Bon, l'argent, oui,
c'est une conséquence, mais ce besoin...
C'est un besoin, oui, c'est un besoin. J'ai besoin de transmettre, j'ai besoin d'aider aussi les gens, je ouais. pense. Pour moi, c'est quelque chose de juste et de normal.
Ouais. Ouais.
Mais l'énergie, en même temps, j'ai besoin de la transmettre. Je ne peux pas rester maintenant des mois et des mois sans rien faire. Ce n'est pas possible. Alors que j'ai plein de choses à faire à côté.
Ouais.
Mais non, j'ai besoin.
Ça, c'est le besoin.
Voilà.
Qu'en est-il de l'argent? Parce que c'est un sujet assez tabou, surtout pour les personnes qui sont... Bon, tout ce qui est thérapeutique, coaching... L'argent, c'est parfois pas facile de parler de ça.
Alors, l'argent, moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai mon mari qui travaille.
Il fait quoi, lui?
Alors, il est dans la parfumerie, en fait.
Ok, ok.
Donc, j'ai mon mari qui travaille et donc, question pour le foyer, le problème ne se pose pas. C'est vrai que quand j'ai commencé, la question d'argent ne se posait pas. Donc, j'ai dit, on verra. Voilà. J'essaye et on verra. c'était pas une nécessité. Non, je sais plus ce que tu m'as demandé après comme question.
Donc après, est-ce que quand tu as commencé à mettre des tarifs, ça t'a... est-ce que ça t'a été un peu inconfortable ou pas du tout, c'est venu très naturellement de dire...
Alors les tarifs, je me suis un petit peu alignée sur les tarifs suisses, même si j'étais un peu moins chère parce que j'essayais quand même... À l'époque, il y avait une vingtaine de francs de différence avec les euros.
Mm.
Donc j'essayais un peu d'égaliser. Ça a été beaucoup plus facile après quand le franc et l'euro sont devenus pratiquement identiques. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué de trouver quelque chose qui soit équitable. Je ne pouvais pas faire, par exemple, 100 euros et 150 francs suisses.
Mm.
C'était pas possible. Donc, j'essayais d'équilibrer. Mais je dirais que ça ne m'a pas spécialement posé de problème.
D'accord. Ok.
Les quelques personnes qui m'ont téléphoné en me disant « Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Je ne peux pas payer. » Je leur ai dit « Mais qu'est-ce que vous estimez devoir me donner? Donnez-moi ce qui vous semble correct. » Me donner à peu près pratiquement la même chose que ce que moi je demandais.
Oui, j'ai vu qu'il y avait cette phrase sur ton site que j'ai beaucoup aimée, où tu disais bah, voilà les prix, mais l'argent ne doit pas être un frein à votre bien-être, donc contactez-moi si jamais. Puis c'est assez rare de voir ce genre de phrase.
Oui, enfin, parce que je trouve que l'argent, c'est une chose, bien entendu, mais la personne qui est justement bloquée par cet argent, elle a peut-être besoin d'un soin.
Ouais.
Et rien qu'un seul soin va peut-être débloquer aussi beaucoup de choses derrière et lui permettre d'avoir la possibilité de se soigner correctement derrière, de faire tout ce qui est nécessaire pour elle.
C'est vrai.
Voilà. Donc je pense que ça ne doit pas être un frein. Quand on a une voiture qui fonctionne mal, on ne va pas dire « je continue avec ma voiture qui va mal, je ne l'emmène pas au garage ». On trouve une solution pour l'emmener au garage.
Vrai.
Pour nous, ça devrait être pareil, voire même plus important
que la voiture.
Que la voiture. Ouais. Parce que si on n'est pas bien et qu'on garde ce mal-être à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire après? Ça va s'amplifier, ça va continuer, ça va s'agrandir. Et là, on déclare des maladies. Là, on déclare tout un tas de choses qui ne vont pas aller.
Ouais.
Donc après, ça sera trop tard. Après, ça sera compliqué.
Donc vraiment, il faut mieux vaut le faire au début.
Mais mieux vaut le faire même quand on va bien.
Oui, prévenir.
Voilà. Voilà. On fait un contrôle annuel.
Voilà, ouais.
Comme la voiture. Qu'est-ce qui va bien? Je vais bien, ok. Mais je me détends, je prends un peu de temps pour moi, je décompresse. Je me fais du bien, je me fais plaisir. Et je vais aller encore mieux l'année d'après. Voilà.
J'aime bien ça. Un contrôle annuel de
bien-être. Mais voilà, c'est ça. Après, je ne vous colle pas une vignette sur le bras, mais...
Ça pourrait être une idée.
Voilà.
Et du coup, tu es aussi coupeuse de feu ou... Donc, comment vous appelez ça?
Oui, alors je suis coupeuse de feu. Coupe le feu.
Donc, parle-nous un peu de...
Alors ça, c'était une grande histoire, en fait. C'est un de mes voisins qui a reçu ce don. Donc c'est un voisin que je connaissais absolument pas. J'ai rencontré sa femme d'abord, qui est venue comme cliente, et par la suite je l'ai rencontré lui, donc qui était thérapeute, et on faisait quelques réunions parce qu'il avait un projet, il essayait de monter un projet avec plusieurs thérapeutes. Donc on se réunissait et lui un jour me dit: mais moi je suis coupeur de feu. Puis je dis: ah ben tiens, ça m'intéresse beaucoup, je trouve que c'est vraiment utile et ça peut apporter beaucoup aux gens aussi, avec des petits bobos quotidiens ou avec des choses plus importantes. Et lui m'a dit: mais moi j'ai reçu ça d'une amie à moi, si tu veux je te fais ce cadeau, parce que c'est un énorme cadeau, je te fais ce cadeau, mais ça doit être donné dans des conditions particulières. Donc on a réuni ces conditions particulières, que je ne dévoilerai pas, et on a réuni ces conditions particulières, il m'a transmis le don, et Ben, la première fois, je l'ai testé sur moi parce que je m'étais renversé une tasse d'eau chaude sur la cuisse.
Ouf, ça fait mal.
Ça fait mal. Et je me suis dit, mais au lieu de dire non, ça fait mal, coupe-toi le feu. Mm. Donc, je me suis coupé le feu. Ça a bien marché.
Donc, en fait, on peut le faire pour soi-même aussi.
Quand on peut le faire pour soi-même aussi, bien sûr. Et après, je l'ai fait pour mes filles et après, je l'ai fait pour des clientes. Puisque pour ma clientèle, je le fais gratuitement. Donc je l'ai fait pour alors je l'ai beaucoup fait pour des zonas, je l'ai beaucoup fait aussi pour
des zonas,
oui, des zonas. Un zona, c'est une un problème de peau qui est ça brûle, en fait. Ça, c'est quelque chose qui brûle énormément. Mm. Qui est la même catégorie que la varicelle. Mais ça brûle, ça gratte, ça démange, c'est une horreur. La personne qui l'a est handicapée par cette démangeaison et cette brûlure de la peau. Et donc, je l'ai fait, je l'ai testé et ça a très très bien marché. En 3 jours, il n'y avait plus rien du tout. Oh. Et donc, je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait aussi pour des personnes qui suivent des chimiothérapies. Et des radiothérapies. Et donc ça, apparemment, elles étaient encore aussi très satisfaites.
Donc ça serait, c'était pour couper leur douleur
ou... Couper la brûlure de la radiothérapie et ce que ça peut provoquer sur la peau aussi.
D'accord.
Voilà.
C'est très puissant. Hein. C'est...
Alors, la personne, j'ai eu un contact de pratiquement un mois avec une de mes clientes, tous les jours, pour savoir comment ça évoluait. Donc elle était en radiothérapie et chaque jour elle me donnait des détails de sa peau, de l'endroit où elle avait été traitée, etc. Et à part le plus que ça lui a fait, je dirais, c'était comme un coup de soleil. Donc elle était hyper contente parce que c'était relativement supportable pour elle et ça l'a beaucoup aidée.
C'est assez fou parce que tout ce qui est coupeur de feu, c'est un des rares sujets. En tout cas, je crois que beaucoup de personnes qui sont pas forcément très ouvertes d'esprit à tout ce qui est un peu inexplicable, c'est un des rares trucs qui reste. Enfin, en tout cas, je sais qu'en Suisse, c'est très accepté. Et c'est, oui. C'est un des rares trucs. On dit, ok, ça, c'est vrai que c'est pas explicable. Je suis quelqu'un de très rationnel, mais ça, ok.
Mais couper le feu fait intervenir l'énergie... Des thérapies énergétiques et des thérapies quantiques. Donc tout se relie, tout est relié en fait. Ça se pratique un petit peu différemment, mais je pense que les premiers coupeurs de feu, c'était des thérapeutes quantiques.
Ouais.
Ils le savaient pas, c'est tout, parce que c'était pas encore connu.
Ouais.
Parce qu'on parlait pas de, on parlait pas de physique quantique, on parlait pas de thérapie quantique à cette époque-là.
Mais c'était ça.
Mais c'était ça. C'était ça.
C'est fascinant.
Et je pense que ça sera sûrement aussi, toutes ces thérapies, ça sera la médecine du futur. Il y aura peut-être la médecine d'urgence. Opérer en urgence quelque chose, oui. Mais il y aura les thérapies quantiques et énergétiques qui vont être amenées à je dirais petit à petit, à aider les gens et voir peut-être à remplacer certains médicaments.
Wow, ça me plaît ce que tu dis là. Donc vraiment, tu vois le futur remplacé par...
Oui. Ouais.
Ça a déjà commencé. Alors, d'ailleurs.
Ça a déjà commencé, ça prendra énormément de temps. Je pense que peut-être nos enfants, nos petits-enfants le verront. Nous, en tout cas moi, je ne sais pas. Mais... C'est oui, je pense que c'est comme ça. C'est des choses, mais à mon avis, c'est des choses qui existaient, qui ont toujours existé et qu'on a perdu. On a perdu en cours de route, on a perdu toutes ces facultés. Et là, ça revient sur le devant de la scène et on reprend les rênes de ce qu'on avait au départ pour essayer d'en faire quelque chose. Mais je pense que ça a toujours existé.
Donc on a un peu oublié ça avec toute l'innovation.
Voilà, oui, tout. Soit ça a été oublié comme ça, justement par l'innovation, comme tu dis, soit ça a été mis de côté exprès pour justement que ça soit plus facile aussi pour, ne serait-ce que pour tout ce qui est corps médical et pharmaceutique, pour prendre de l'essor.
C'est vrai.
Si on n'a pas besoin de médicaments, ça se passera mal pour beaucoup de monde.
Ouais.
Les pharmaciens, les pharmacies, oui. Les lobbies pharmaceutiques, etc. Enfin bref.
C'est marrant que tu parles de ça parce que t'es en pharmacie.
Oui, je suis en pharmacie. Ouais. Oui, c'est pour ça que je me permets de le faire.
Donc tu es quand même assez critique par rapport à ça.
Je suis assez critique. Alors il y a des choses qui sont bien et qui sont valables à certains moments. Mais je pense qu'il y en a d'autres, c'est abusé.
Ouais.
C'est pas nécessaire.
Ouais. Et ça leur fait, il y a beaucoup d'argent derrière.
Mais bien sûr, ouais. Bien sûr. On en revient toujours à cette histoire d'argent.
Toujours. Ouais, je prends presque jamais de médicaments, moi, en fait. Donc, ça me parle beaucoup, ce que
voilà.
Tu dis.
Mais on n'a pas... Le corps, il est fait... Quand tu te fais une coupure, si tu laisses ta coupure comme ça, qu'est-ce qui va se passer?
Ouais, elle se referme,
je pense. Elle se referme, tu guéris.
Ouais.
À plus ou moins long terme. Ouais. Le corps est fait pour guérir. Alors, bien sûr que si tu te casses un bras et que tu as une fracture ouverte, ça sera plus facile de te faire réparer médicalement le bras que d'attendre que ça se fasse tout seul. Et ça sera sûrement mieux fait.
Ouais.
Mais en même temps, voilà, c'est la médecine d'urgence, ça. Et même la chirurgie d'urgence. Mais en même temps, c'est pas nécessaire. Parce que si tu remets ton bras comme il faut, tu fais un pansement par-dessus et que tu attends, ça va se réparer.
Oui.
Ça sera dur, ça sera pénible, ça te fera mal, ça sera long, ça peut s'infecter, etc. Mais ça va se réparer.
Ça va finir par se réparer.
Voilà. Et le corps est fait pour ça.
Ouais.
Donc, un médicament va aider, mais il va peut-être détruire autre chose à côté en même temps.
Ouais. Donc, parce qu'on a vraiment les ressources à l'intérieur.
On a tout à l'intérieur.
Ouais.
Mais ça aussi, ça s'est perdu.
Ouais.
Il y a le manque de confiance. C'est tellement plus pratique d'avaler un comprimé.
Oui.
J'ai mal à la tête, hop, bon. J'ai plus mal une demi-heure après.
Ouais.
C'est bien mieux.
Ouais, ouais.
C'est plus facile. Mais c'est plus dangereux, ça fait plus de dégâts. À long terme.
Parce que l'autre solution, ce serait vraiment de prendre soin de son corps, de soi,
de prendre soin de son mal de tête. Pourquoi tu as mal à la tête?
Ouais.
Déjà, tu te poses la question. Est-ce que tu as bu assez de l'eau, hein, bien entendu. qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mal à la tête? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que tu stresses? Voilà. La disharmonie dans le corps arrive par le stress.
Ouais. Ouais.
Donc, du moment que tu as un stress, on en a tout le temps, du moment que tu as un stress, tu as un déséquilibre. Et c'est ça qu'il faut rééquilibrer derrière.
Et comme beaucoup de gens ont des vies très stressantes, travaillent
voilà,
beaucoup,
la vie actuelle.
Ça va vite. Du coup, un petit comprimé, c'est...
Ben voilà.
Ouais.
Parce que la vie actuelle est tellement stressante. Te dire, ok, je vais faire quelque chose pour me libérer de mon stress, ça va te prendre un peu de temps, surtout au début.
Ouais, c'est un investissement à long terme.
Voilà. Et t'as toujours mal à la tête, ou t'as toujours ta douleur, etc. Si tu prends un comprimé, une demi-heure après, c'est bon, t'es tranquille.
Mais c'est comme une solution superficielle.
Mais voilà, c'est un pansement posé par-dessus
qui
ne va pas guérir ce qui est en dessous.
Ouais, ouais. Du coup, en parlant de ça, est-ce que tu as une routine quotidienne pour, comme la méditation ou autre pour te sentir bien, prévenir un peu tout ça?
Alors, moi, ma routine quotidienne, je dirais que c'est pas une routine énergétique ou quoi que ce soit. C'est avec les mots.
Avec les mots,
parce que les mots ont un impact hyper important sur nous.
Oui, ouais.
Je sais pas si tu as entendu parler des travaux de Masaru Emoto.
Avec l'eau?
Oui, avec l'eau.
Oui, ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, il a regardé l'eau à laquelle on avait écrit dessus merci, et l'autre, je crois que c'était je te déteste, enfin. Et donc, ça a donné des photos très belles quand c'était merci, pardon, des choses comme ça. Des mots agréables, des mots, des beaux mots, on va dire. Et quand c'était des mots désagréables, c'était des photos atroces, moches.
Mmh. Ouais.
Et donc, notre corps est en fait plus de 70% d'eau.
C'est vrai.
On réagit pareil.
C'est vrai.
Donc, moi, le matin, c'est... déjà, quand je me lève, je me pose la question pour savoir qu'est-ce que je vais faire d'agréable aujourd'hui et de bien, qui va m'apporter quelque chose. Je ne cherche pas de réponse, bien entendu. Je pose simplement la question à l'univers. Qu'est-ce qui va m'arriver de bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être sympa aujourd'hui? Oui, j'ai ça à faire, mais qu'est-ce qui peut être mieux à côté, en plus, encore? Qu'est-ce que je peux rajouter de plus sympa? Et je laisse. Voilà. Je laisse. Alors ça, c'est pratiquement tous les jours.
Donc tu penses à ça?
Je pense, voilà. Comment organiser ma journée pour que ça soit une journée agréable? Mais je ne vais pas me focaliser sur l'organisation elle-même. Je laisse faire, je laisse venir. Et des fois, il y a des trucs vraiment sympas qui viennent, comme toi aujourd'hui. Mais donc voilà, je pose simplement les questions. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Ou alors quand je veux quelque chose, mais est-ce que je peux avoir cette chose-là aujourd'hui? Mais je ne doute pas. Si tu doutes, tu n'as rien.
Ouais.
C'est pas est-ce que je peux, en fait, c'est j'aimerais ça ou je veux
c'est
ça.
C'est une certitude.
Voilà,
une affirmation.
Voilà. Et je veux rencontrer aujourd'hui quelqu'un de sympa. C'est pas est-ce que je peux rencontrer quelqu'un de sympa. Voilà. Comme ça, tu vas le rencontrer, tu rencontres la personne sympa aujourd'hui.
Et donc, ça, tu vois vraiment.
Je vois les choses, c'est comme je te disais tout à l'heure, quand je veux la clientèle, je me dis. J'aimerais un appel téléphonique ou deux appels ou j'aimerais de la clientèle. Je rentre pas dans le détail de savoir combien je vais avoir d'appels téléphoniques. Je veux des rendez-vous pour le mois prochain. Et voilà. Et ça, ouf, ça sonne, ça téléphone.
Donc tu t'en remets vraiment à l'univers et...
Voilà.
Avec,
oui. Et moi-même, je suis étonnée des fois parce que je me dis, tiens, c'est rigolo.
C'est marrant quand même.
Mais j'ai remarqué quand même les fois où je doute. Où je dis, oh, non, mais c'est pas possible. Eh bien, effectivement, c'est pas possible.
Ah, ouais.
Si tu poses la question et tu laisses, tu oublies. Tu te poses plus rien derrière en te disant, ça va marcher, ça va pas marcher, etc. Tu laisses, tu poses la question, tu laisses, et ça arrive. Et c'est là où tu te dis, mais c'est pas possible.
C'est fou.
C'est... Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait toujours rire.
Ouais.
Ça me fait toujours rire.
Et tu te prends vraiment avec...
Ah, mais c'est un amusement, oui, c'est un amusement. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire venir dans ma vie aujourd'hui?
Puis ça rend la vie très fluide aussi.
Mais bien sûr.
Parce qu'il y a tous ces trucs d'organisation, de comment mieux gérer ton temps, mais ça a l'air bien plus marrant de,
mais c'est, oui,
de
c'est
faire
plus
des
marrant.
Choses comme ça.
Il y a des jours, j'ai, aujourd'hui, j'ai rien envie de faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'agréable aujourd'hui qui va me plaire?
Ouais.
Et il y a des choses qui arrivent. Et des fois qui vont avoir des rebondissements et des suites auxquelles je ne m'attendais pas du tout, mais qui sont favorables pour moi. Donc, c'est vraiment... je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas chercher à vouloir diriger les choses, mais il faut les laisser venir.
Ouais.
Et prendre des opportunités. Alors oui, il faut être attentif aux opportunités.
Comment on fait ça pour être attentif aux opportunités?
Quand il y a quelque chose qui... Quelque chose qui n'est pas, je dirais, habituel, je me dis, tiens, ça c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Et je vais, justement, je vais creuser, je vais chercher. Si par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un, j'ai pas vraiment d'exemple, mais il y a quelqu'un qui sonne à la porte... Et la personne me dit « Ah, mais j'ai mis quelque chose dans votre boîte aux lettres pour vous. Ben, » au lieu de lui dire au revoir, merci, et puis de la laisser partir, je vais peut-être aller tout de suite lui répondre, regarder pendant qu'elle est là ce qu'il y a dans la boîte aux lettres, et peut-être que ça va commencer par une discussion. Ce qu'elle m'a apporté dans la boîte aux lettres, c'est peut-être quelque chose qui ne m'intéresse pas. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui est intéressant et qui peut apporter quelque chose dans ma vie.
Ça me fait penser un peu à tout ce qui est synchronicité.
Mais c'est ça.
J'avais lu un livre, c'était quoi ? La prophétie de Célestine. Je sais pas si tu connais. Mais bon, en gros, tout le livre, c'est ça. Ça t'amène à faire attention à ce genre de choses. Ouais. Puis ça t'incite à ça. C'est romancé, mais...
Moi, je connais la prophétie des Andes, mais c'est... je sais pas si c'est ça.
Peut-être que c'est ça. La prophétie des Andes. Ouais, enfin, c'est aussi sur les synchronicités.
Oui, oui, aussi.
Ça se passe au Pérou.
Oui.
Alors peut-être voilà, que c'est ça. J'ai lu en anglais, ouais. Je crois que c'est Célestine Favessi.
Mais, oui, bah c'est ça, oui. C'est la loi d'attraction, c'est le quantique, c'est tout pareil.
Et ça t'arrive de rencontrer des gens qui sont très fermés à ce genre de choses.
Oui, bien sûr. Mais ils sont pas prêts. Il y a certaines personnes qui sont pas prêtes. Ça leur fait peur. Ou alors, il y a une histoire de gourou dans leur famille. Je sais pas. Il y a quelque chose. Et donc, ils sont bloqués. Ils sont bloqués eux-mêmes. Ou il y a un blocage générationnel qui fait qu'ils peuvent pas s'ouvrir à ça.
Ouais.
Mais en même temps, quand tu leur expliques et tu leur fais comprendre comment ça se passe, petit à petit, il y a une ouverture qui se crée. Et « Ah, mais oui, j'ai déjà fait ça, puis c'est venu comme ça. » Ben voilà, c'est ça. Vous l'avez déjà fait, c'est juste leur faire comprendre que c'est pour tout le monde et tout le temps. Simplement, il y a des gens qui ne font pas attention à ça. Les synchronicités n'existent pas, c'est le hasard. Enfin, on peut l'appeler comme on veut.
Oui.
Mais c'est pas du hasard.
Ouais.
C'est quelque chose que tu as besoin à ce moment-là.
Ouais, ouais. Donc, et à toi de le remarquer.
Voilà.
Et de...
Alors, si tu passes à côté, des fois, ça peut revenir. Ou alors, tu le loupes complètement, puis tu vas arriver à ce que tu dois... à ce que tu dois faire, mais par un autre moyen qui prendra peut-être plus de temps.
Un autre chemin.
Voilà.
On parlait avant d'organiser des conférences, de faire venir des... Enfin, tu m'as l'air très active à ce niveau-là.
J'essaie.
Faire venir des gens. Comment tu fais ça? Comment ça a commencé un peu cette envie de...
Mais je fais ce que j'ai envie au moment où j'ai envie.
Ok, donc toujours dans cette histoire de...
voilà, toujours sans savoir le résultat que ça va donner. Bien sûr que j'ai une idée de ce que j'aimerais comme résultat, mais je m'attends à rien, donc je suis jamais déçue puisque je m'attends à rien, donc je le fais et puis ça donne ce que ça doit donner, et donc des fois on a des résultats extraordinaires. Les résultats sont souvent au-delà de ce que j'espérais, en 10 fois mieux. Mais je me focalise pas sur un résultat en me disant je veux que ça soit comme ça, et non, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ça, je le fais, ça donne un résultat, tant mieux, ça donne rien, tant pis.
Parce que pour beaucoup de gens, par exemple, si t'as envie d'organiser une conférence, un truc, il y a le côté comment qui bloque beaucoup aussi, comment je vais faire, où c'est que je trouve une salle.
Mais il faut chercher, il faut passer à l'action.
Il voilà. Faut pas juste attendre que ça vienne, mais
bien
après,
sûr,
ouais.
Bien sûr, mais rien ne t'empêche de chercher une salle. Tu vas la trouver, la salle, si tu la cherches.
Ouais.
Par contre, ne réserve pas une salle sans savoir si tu vas avoir du monde dedans.
Ouais.
Tu vois ? Voilà. C'est juste une... Oui, il y a une organisation, bien entendu. Il faut prendre les choses petit à petit. Savoir si la personne, par exemple pour une conférence, savoir si la personne veut venir faire une conférence. Si elle dit oui, c'est déjà une bonne chose. Elle peut dire oui à certaines conditions. C'est pas grave, les conditions, tu les mets de côté et tu regardes au fur et à mesure que tu avances si les conditions sont remplies. Ou tu fais en sorte de les remplir. Si par exemple la personne dit « Ah, mais moi je veux une salle où je vais avoir une estrade à 3 mètres de haut », ok, quand tu loues ta salle, tu dis « J'aimerais une salle, j'aimerais vous louer une salle, est-ce que vous avez une estrade de 3 mètres de haut ?» Bon, c'est juste ça, il faut juste prendre les choses comme elles se présentent, comme elles arrivent, et petit à petit tu arrives à remplir les conditions.
Ouais, tu trouves des solutions.
Ouais.
Question très concrète, mais quand tu fais venir quelqu'un pour une conférence, donc l'argent va revenir à cette personne, ou est-ce que c'est partagé, ou est-ce que ça dépend?
Alors en général, je dirais que je prends rarement quelque chose, ou alors je prends un petit pourcentage.
D'accord, ok.
Ça dépend si la personne m'apporte à moi quelque chose. Si par exemple la personne vient faire une conférence et qu'elle donne une formation derrière, si je peux profiter de cette formation, je ne vais rien demander.
Ouais.
Voilà. Si c'est juste une conférence avec rien derrière, pas de formation, pas d'autre chose, ou que ça m'apporte strictement rien de plus à moi, oui, je vais prendre quelque chose. J'ai une amie une fois qui a voulu faire une conférence. Assister à la conférence m'aurait apporté quelque chose, une connaissance, mais rien de plus. Je lui ai demandé un petit pourcentage sur ce qu'elle allait faire.
D'accord.
Ce qu'elle allait récolter.
Ok.
Sachant qu'en général, il n'y a pas grand chose, parce qu'on... Les conférences en elles-mêmes sont pas très, très chères. Il y a le prix de la salle.
Oui,
voilà.
Il ne
reste pas grand-chose derrière.
Ouais.
Mais je le fais de toute façon dans l'optique de le faire, simplement. Si j'ai rien, je me suis amusée.
Oui, ça voilà. J'aime bien. Ça devrait toujours être...
Mais si j'ai rien, je me suis amusée à le faire.
Ouais.
Parce que je prends du plaisir à le faire.
Ouais. Et ça, on devrait... Parce que je connais tellement de personnes qui ont peur de se planter quand ils font ce genre de choses, mais... Tant que tu t'amuses,
mais voilà,
il n'y a rien eu de perdu, quoi.
Mais non, il n'y a rien de perdu.
Ah, j'aime beaucoup ça. Donc en fait, toi, tu vois, pour finir un peu, tu vois vraiment l'humanité comme aller vers quelque chose de positif, en fait.
Oui, je pense que cette fameuse fin du monde de 2012 dont tout le monde a tant parlé.
C'est le jour de mon anniversaire en plus.
Donc je pense que oui, c'était la fin du monde tel qu'on l'a connu.
D'accord, ouais.
Et ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place a commencé. Alors est-ce que c'était vraiment cette date, j'en sais rien, mais bon, c'était voilà, c'était une transition,
ouais.
Et oui, je pense qu'il y aura ce monde de conscience, avec une conscience plus ouverte,
ouais.
Des gens,
ouais.
Ça prend de plus en plus d'ampleur, il va y avoir beaucoup de monde qui vont y venir petit à petit, je pense.
Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont là, oui, mais le monde va mal, il y a des gens qui sont élus comme Trump aux États-Unis, c'est terrible. Parce que moi, je suis d'accord avec ce côté, ça ira mieux, et je pense vraiment à ça aussi, mais j'ai de la peine quand je me trouve face à des personnes qui sont très négatives.
Alors, les gens négatifs, déjà, apportent le négatif dans leur vie. Parce qu'ils sont tellement négatifs que y a que ça.
Oui.
Et plus on se focalise sur le négatif, plus on engendre du négatif. Donc déjà, de un, je leur dirais, ok, c'est un fait qui est, il ne vous plaît pas, il plaît à d'autres, hein, mais il ne vous plaît pas à ça, vous, ouais. Parce que, voilà, qu'est-ce qui est juste ou faux, ça, chacun a son point de vue. Hein. Mais ça ne vous plaît pas, mais arrêtez d'y penser. Arrêtez de focaliser dessus.
Ouais, c'est de l'énergie vraiment.
Voilà, focaliser sur qu'est-ce qui est possible autrement.
Ouais. Ouais.
Et ça apportera des changements.
Oui. Ouais.
Ça apportera autre chose. Parce que se lamenter en disant oh mon Dieu, ça va pas, ou, c'est pas possible, c'est une vraie catastrophe.
C'est souvent des choses hors de notre contrôle en plus.
Mais voilà. Oui, c'est triste, mais ça sert à quoi de pleurer en plus dessus? Ça va rien changer, ça va pas s'améliorer, et ça rendra encore plus de monde triste.
Ouais.
Parce que les gens qui sont dedans sont tristes, ceux qui y pensent seront tristes aussi.
Boule de neige négative.
Voilà. Donc non, ça sert à rien. Ouais. Donc oui, c'est un fait. Ce fait existe. Qu'est-ce qui est possible?
Ouais.
Qu'est-ce qui est possible pour le transformer, pour le changer, pour avoir une vision différente, pour faire autrement, pour transformer cette catastrophe. ou pour apaiser.
Ouais.
Simplement. Pour apaiser les choses. Alors oui.
D'ailleurs, je crois que la venue de ce genre d'événement, par exemple l'élection de ce président, ça fait que beaucoup de personnes ont commencé à penser à ces questions. Puis alors qu'avant, elles ne s'y intéressaient pas du tout sur comment faire autrement.
Oui.
Donc c'est peut-être positif d'une certaine manière.
Mais rien ne se fait par hasard.
Ouais.
Donc s'il n'y avait rien de toute façon de négatif, les gens ne pourraient pas prendre conscience qu'il y a du positif.
C'est vrai.
Donc il faut qu'il y ait du négatif.
Ouais.
Après, c'est vrai que quand la personne elle trempe vraiment dedans, elle ne sait pas comment s'en sortir, mais c'est là qu'elle peut se faire aider par un thérapeute pour justement trouver les bons trucs, les bonnes méthodes, les bons moyens pour émerger et sortir la tête de l'eau. Et quand on sort la tête de l'eau, on peut sortir un bras, deux bras et hop,
c'est bon.
On émerge complètement.
Quelles ont été tes plus belles expériences avec certains clients? Ou est-ce que tu peux pas trop en parler, mais...
Alors, les expériences, je dirais des expériences sont totalement différentes d'une personne à l'autre. Sans dévoiler les choses avec les détails, je dirais que les belles expériences que j'ai eues, c'est déjà quand la personne, elle me téléphone et qu'elle me dit « Ouais, c'est génial je me sens bien !» Alors ça me fait énormément plaisir, parce qu'au moins je me dis « Ok, même si elle n'est pas arrivée à ce qu'elle voulait, elle se sent déjà mieux. »
Ouais.
Voilà. Donc ça, il y a pas mal de personnes qui m'ont téléphoné pour ça. Autrement, alors ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est quand les personnes viennent en me disant qu'elles ont tel et tel problème et elles sont vraiment axées sur un truc très précis. Et quand on fait la séance, bon, elles repartent, sans plus, elles savent pas trop. Et au bout de quelques jours, on se téléphone et elles me disent « Oui, mais le truc pour lequel je suis venue, c'est pas ça qui va pas. C'était ça qui n'allait pas et maintenant j'ai compris et ça va beaucoup mieux. »
Ah,
oui. En fait, elles viennent pour quelque chose, mais elles prennent conscience en repartant que c'est pas ce problème-là qui les embête. C'est carrément autre chose. Bon, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est... Elles sont à côté de ce qui les embête.
Ouais. Ouais, ouais.
Et elles focalisent sur un truc qui n'a pas lieu d'être parce que c'est autre chose qui les dérange.
Mais même en se focalisant dessus pendant la séance, ça peut après résoudre cette autre chose.
Mais bien sûr, ça a des ramifications. Donc,
ouais.
Parce que effectivement, si elles se focalisent là-dessus, c'est parce qu'elles sont persuadées que c'est ça qui ne va pas. Mais ça vient d'où, ce truc-là? Et en repartant en séance, quand on repart un petit peu, je dirais en arrière... On retrouve ce qui ne va pas, pourquoi, comment. On va retrouver la première chose qui n'a pas fonctionné et qui a induit ce problème actuel.
Ouais, ouais.
Voilà.
Est-ce que tu aurais des conseils pour toute personne qui désirait se lancer dans une activité similaire, thérapeute holistique ou...
Croyez en ce que vous faites, croyez en vous et mettez-y du cœur. Sans y mettre du cœur, vous n'arriverez à rien. Tout part du cœur. Le cœur est beaucoup plus puissant que le cerveau. Je travaille beaucoup avec le cœur. Et avec le cœur, on arrive à tout.
Merci.
Voilà.
Je vais finir avec cette question par rapport à la liberté. Qu'est-ce que la liberté pour toi ? Que signifie le mot liberté, être libre ?
Alors, la liberté, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. J'ai toujours aimé être libre. Alors, je dirais que c'est... la liberté, c'est... ne rien m'imposer. Je ne m'impose rien, je ne m'oblige à rien, je fais ce qui est nécessaire, mais je ne m'oblige à rien. Alors, je ne sais pas si on voit beaucoup la différence. On est obligé de faire certaines choses dans notre société actuelle, hein, ne serait-ce que de payer nos factures dans un certain laps de temps, etc.
Alors, c'est nécessaire.
Voilà. Je le fais, mais je ne me l'impose pas. C'est-à-dire que je vais le faire le jour où j'ai envie. Je ne vais pas m'imposer une date limite en me disant « Oh mon Dieu, ça, je dois le faire à tel moment. » Ça va être dans un cadre respectueux de l'autre. C'est-à-dire, ben là, en l'occurrence, les factures, je dois les payer, on va dire, avant le 10 du mois, ça sera fait. Je ne m'impose pas les choses. Je fais ce qui est nécessaire. Je ne sais pas comment expliquer.
Bah, ça revient beaucoup à ce que tu disais, voilà. Comment tu te lèves le matin.
Oui, voilà. Je ne m'impose rien. Par contre, je le fais toujours dans le respect de l'autre. Parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre à côté. Quelqu'un qui est en relation avec la chose.
Oui.
Ouais. Que ça soit une personne, un être humain ou un organisme. Ou... Voilà. Je le fais dans le respect de l'autre. De façon à ce que ça n'empiète pas sur sa propre liberté.
Oui.
Voilà.
Ouais, ouais. Ben, merci beaucoup.
De rien. Merci à toi.
Et merci à toi, cher explorateur, d'avoir écouté. Je mettrai les liens sur le blog pour le site internet de José. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.